Salut, tu écoutes Match Après Match.
Le salon de Match Après Match vous ouvre ses portes. 60 minutes d'émission autour du football. Rien que pour vous, on vous attend sur notre page YouTube Blue Sport FR pour voir, lire vos questions et vos interrogations. Bonjour à toi si tu nous écoutes en podcast à partir de tous les lundis. Je vous présente le casting. Michael Bunion est là, Guillaume Febvre est là et notre invité est Ali Kabakalman du FC Sion. Salut Ali, salut les gars.
Salut.
On
salut.
Y va ? On commence Allons-y. Par le débrief de Sion IB. Tu étais sur le terrain hier soir. Évidemment, Sion qui a gagné 3-1. Pour moi, la meilleure première mi-temps du FC Sion cette saison. Il y avait déjà 3-0 avant la 30e minute.
Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on a bouclé le match après la première mi-temps. On a fait une très grosse première mi-temps et on a suggéré la deuxième. Je pense que sur la globalité du match, on mérite la victoire et c'est le plus important.
Oui, si je peux rajouter en effet les propos que tu dis, c'est vrai qu'on a vraiment senti Sion vouloir vraiment agresser IB dès les premiers instants du match. Et puis, justement, ces récupérations de balles très hautes et puis cette volonté vraiment qu'on a ressentie de vouloir faire très mal par des contres toujours initiés aussi souvent par Chouaref, par Lavanchy. Mais voilà, on a vu que c'était vraiment l'intention de Sion de faire très mal à cette défense de IB qui est en réelle peine ces temps.
Je dois être 100% honnête avec nos téléspectateurs. J'étais à Lucerne hier soir, donc je n'ai pas forcément vu tout le match de Sion IB. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ce FC Sion, c'est qu'il y a eu deux victoires consécutives qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que moi, j'étais à Winterthur Sion. J'ai vu ce match comme étant un match géré de la première à la 90e minute sans être exceptionnel, sans être vraiment un joli FC Sion. Et hier, de ce que j'entends, de ce que j'ai vu dans le résumé également, c'est que cette première mi-temps était de très bonne facture, très bonne qualité. Donc on a un FC Sion qui est capable de gagner des matchs complètement de manière différente. Et je pense que c'est ça que Sion a vraiment... Enfin, il y a eu un upgrade par rapport à il y a deux ans. C'est que même les matchs, entre guillemets, faciles, où Sion se mettait souvent en danger, comme Winterthur il y a deux ans... Bah là, ils l'ont gagné 3-1 facile. Et un match contre IB où IB était de retour en pleine forme, bah ils le gagnent 3-1 facile.
Ouais,
c'est enfin, facile. C'est peut-être un...
C'était que la deuxième fois, t'as raison, deux victoires consécutives. C'était que la deuxième fois cette saison. Il y avait eu IB Lausanne. Et là, ça fait Winterthur IB. Je rejoins Guillaume hein, sur cette volonté d'aller chercher l'adversaire hier. Vous étiez sur les deuxièmes ballons en premier. Vous étiez meilleur dans les duels. Vous étiez meilleur dans le placement. Vous étiez incroyable sur ces comptes. C'est nous ce qu'on a vu depuis l'extérieur, vous, sur le terrain, vous avez vu encore autre chose peut-être qui a fait la différence?
Non, c'est vrai que depuis un moment, on commence à aller chercher les adversaires un peu plus haut. On essaye d'agresser parce qu'on sait qu'on a une belle équipe en transition, surtout avec des joueurs comme Chouaref qui dès qu'ils sont lancés, ils sont très forts en 1 contre 1. Donc c'est ce qu'on essaye de faire et on est en progression depuis le début de la saison.
Et c'est important aussi de faire des points à domicile. Une seule défaite hein, contre Zurich à domicile pour le FC Sion. Vous avez fait pratiquement, alors pas la totalité de vos points à domicile, mais beaucoup de points à domicile. Et c'est important de faire de nouveau de tourbillon un stade où les équipes savent qu'elles vont souffrir.
Oui, mais c'est un objectif. C'est un objectif que le coach nous a donné aussi, qu'à la maison, ça soit notre forteresse, que personne vienne nous prendre... Que personne vienne nous prendre des points. Et je pense qu'on est en train de remplir ça. Il y a juste le match à Zurich, enfin contre Zurich, où on passe complètement à travers. Mais sinon, à domicile, on a fait le nécessaire. Et on commence aussi à l'extérieur d'aller chercher les équipes un peu plus hautes. On commence à faire aussi des points à l'extérieur. Donc c'est intéressant et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée.
J'aime bien cette dernière phrase parce que j'ai l'impression que de plus en plus, si on ne s'adapte plus à l'adversaire et au fait de jouer à domicile ou à l'extérieur, c'est l'adversaire qui s'adapte. C'est-à-dire que là, que ce soit Winterthur ou IB, bah finalement, si on a essayé de jouer de la même manière, en agressant, en allant chercher haut, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'au début, bah, en tant que promu, peut-être qu'il y avait les matchs à l'extérieur contre des plus gros où on se disait « Ouh là là, on va peut-être faire attention ». Puis là, bah, y a peut-être aussi une certaine confiance qui est en train de rentrer dans les têtes, et je pense que Didi Tolo y est pour quelque chose aussi, c'est qu'au bout d'un moment... qu'on soit à domicile, à l'extérieur, contre IB, Bâle ou Winterthur, si on joue notre jeu, bah, y a moyen d'aller chercher les 3 points à chaque fois.
Et il y a quand même aussi, on a déjà des questions. Hein. Jules Torrent qui est là, on va lire sa question. Mais d'abord, peut-être aussi, dans les changements,
C'est vrai. Sion joue à sa façon, ne s'adapte pas forcément à son adversaire. Mais il y a ce changement de système. Nous, on en a beaucoup parlé en plateau entre journalistes et consultants. Comment il vous a annoncé ça un jour, Didier Tolo, il est arrivé et puis vous a dit « Bon, les gars, allez, on va passer en 4-4-2 losange. » Non, comment ça s'est passé?
Non, c'est après bah, justement la défaite à Tourbillon contre Zurich. On a eu une réunion entre nous, les joueurs et le staff. On s'est dit les choses, on s'est dit certaines vérités aussi. Le staff nous a reproché certaines choses. Nous, on a aussi pris la parole. Et le coach a décidé de changer de système. On est parti à Saint-Gall en jouant à 5 derrière. On a fait match nul. Et la semaine d'après, on a joué Lucerne, qui jouait en 4-4-2 losange. Donc, il a voulu aussi aller les chercher haut avec le même système. Ça a payé. On a gagné 4-2. Donc, depuis, on joue dans ce système-là.
Je trouve que voilà, ça montre aussi que l'équipe évolue aussi, a évolué. Moi, pour avoir suivi aussi les rencontres de ce début de saison, on sentait un Sion alors très solide défensivement, s'asseoir vraiment sur cette très bonne défense, très bon gardien, mais toujours un peu manqué cette légitimité de vraiment aller chercher la présence aussi dans les 16 mètres et finir les actions par un surnombre avec 5 ou 6 joueurs dans les 16 mètres. On voyait souvent une équipe un peu divisée, coupée en deux. Et puis là, on sent que voilà, l'équipe évolue. Et puis, les joueurs vraiment se rendent compte, prennent conscience qu'elle peut aller chercher vraiment et apporter le danger dans les 16 mètres adverses.
Et Didier Tolo, moi, je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Je trouve qu'on parle beaucoup de plein d'entraîneurs en Super League. Mais Didier Tolo, je ne dis pas qu'il est sous-coté, hein, vraiment pas du tout. Mais c'est quand même un brillant coach, un très, très bon technicien, tacticien aussi plutôt. Parce que il a dû chercher des solutions. Et puis là, moi, j'ai l'impression qu'il a trouvé quelque chose de chouette.
Ce qui est certain, c'est que ça reste le seul qui réussit à Sion. On peut dire ce qu'on veut, que ce soit tactiquement, sportivement, administrativement parlant, on ne parle pas de négatif à Sion en ce moment. Donc c'est le seul qui réussit, que ce soit en Challenge League ou en Super League. Alors la saison n'est pas terminée, on est d'accord. Mais moi il y a un point, d'ailleurs je l'ai dit au commentaire la semaine dernière, c'est pas souvent que dans ma carrière de commentateur j'ai pu placer le mot serein et Sion dans la même phrase. Et il y a une sérénité sur le terrain, mais pas que dans le club en ce moment. Et je pense vraiment que cette sérénité, elle vient de Didier Tolo. Parce que lui, Christian Constantin a confiance en lui, c'est de là que ça part, c'est la confiance de Monsieur le Président. Et je pense que clairement ça part de là, et sur le terrain ça se ressent. Tout le monde a confiance et ça marche.
On en parlait tout à l'heure, cette volonté aussi de Didier Tolo à l'intersaison, de ne pas vouloir non plus remodeler tout le groupe, vraiment faire avec les forces en présence. Et puis on sent vraiment maintenant les rôles qui sont attribués chez toi, chez Joël Schmidt, chez Lavanchy, chez Zorgic. Et puis ça c'est important. On peut prendre peut-être des comparaisons avec d'autres équipes qui sont peut-être plus étoffées, avec des individualités plus, avec un potentiel plus important, mais voilà, ces rôles sont attribués, pour moi ça c'est la clé.
Et une autre chose peut-être qu'on pourrait faire à titre de comparaison, c'est que Didier Tolo hier soir a fait zéro changement par rapport au FC Sion qui a été éliminé à Bâle en coupe, contrairement à Joël Magnin qui en a fait 7. Et est-ce que pour vous, je pose ça là au milieu, mais est-ce que cette victoire de Sion, elle s'est aussi jouée sur Liban, sur ces décisions-là?
Ça peut. Maintenant, faut toujours faire attention quand tu as plusieurs compétitions. Alors maintenant, il n'y en a plus qu'une, en l'occurrence pour Sion, mais de ne pas non plus intégrer forcément tes 14e, 15e, 16e joueurs, ça peut devenir compliqué dans l'enchaînement de la saison, selon moi. Après, là, sur cette semaine, moi, je trouve ça assez intelligent parce qu'il veut montrer à ses joueurs. Il y avait eu une victoire avant, deux jolis matchs depuis le début novembre. Il ne voulait pas tout chambouler alors qu'il y a eu cette défaite contre Bâle. Et cette défaite contre Bâle, elle s'est jouée clairement sur des détails. Il faut quand même le rappeler aussi. Donc je pense que c'est intelligent de sa part de dire les gars, c'est bon, j'ai confiance en vous. Ce n'est pas parce qu'on a perdu ce match que je vais tout chambouler.
Techniquement, ils ne l'ont même pas perdu puisqu'ils sont éliminés tir au but. Mais c'était une question de repère. Il nous a dit à l'interview, c'est une question de repère. Moi, je préfère compter sur ces 11-là. Je sais que je vais changer en cours de match parce qu'ils ont leur repère. C'est vrai? C'est comme ça que vous le ressentez?
Oui, en fait, sur la semaine anglaise, il a fait un changement. À Winterthur, on était parti aussi sur la même équipe avec juste Sorgic en attaque avec Ilias. Et il a juste changé Sorgic qui était suspendu hier. Il l'avait déjà changé contre Bâle pour Bouchlarem. Mais c'est vrai qu'il y avait ses repères et surtout, avec les joueurs qu'il a mis dans ce système-là, on pouvait changer de système. On pouvait passer en 4-2-3-1, on pouvait passer en 4-3-3. Donc, indirectement, il, je pense aussi rassuré, dans le sens où s'il voyait que ça se passait peut-être un peu moins bien, pouvoir changer de système. Et je pense que c'est le choix qu'il a fait.
On fait un petit tour sur la page YouTube. Il y a pas mal de questions pour vous, Ali. Il y a Jules qui demande si vous avez travaillé plus particulièrement les coups de pied arrêtés à l'entraînement, car normalement, ce n'est pas la qualité attendue du FC Sion, ces coups de pied arrêtés.
Bah, on les travaille beaucoup. On les travaille beaucoup. Et après, bah, y a des matchs où ça passe et d'autres pas. Et hier, Liam Tuberfield, il botte deux, un corner et un coup franc exceptionnel. Et nos deux centraux, ils la mettent au fond.
Il y a les profils pour, en tout cas. C'est vrai qu'on parle de Tuberfield pour les tirer. Et puis,
on se souvient de Schmid à Vaduz. C'était quand même ça.
C'était sa force principale. Ouais.
C'est vrai. Oh. Jonas demande, pour moi, Schmid est l'un des meilleurs joueurs du tour et un des plus constants. Pour vous, qui est le meilleur joueur du FC Sion lors de ce tour? Question plutôt pour Guillaume et pour Mickaël.
Moi, on peut en prendre... moi, je prends Chouaref.
Chouaref?
Mince. J'avais aussi Chouaref.
Alors, vas-y. tu peux en donner un autre.
Très bien. Berdaïs. Parce que je ne l'attendais pas à ce niveau-là.
Top, je suis assez d'accord avec toi. On l'a relevé hier soir dans les commentaires avec Yohan Lonfa. Allez.
Un autre que ce qui
un
a été...
Un autre que vous.
Un autre qui a été cité. Ah, je dirais Joël Schmidt. C'est le patron de la défense. Il a repris le brassard à Reto quand Reto il est pas sur le terrain. Et c'est le patron derrière. Donc, et il fait un beau début de championnat. Il a déjà 3 goals. Donc Joël.
Est-ce que la coupe était un réel objectif pour Sion cette saison, ou l'élimination est-elle un mal pour un bien, demande Chris Lausanne.
Non, on sait la ferveur qu'il y a avec la coupe en Valais. C'était un objectif. On est déçu d'être sorti, malheureusement au pénalty. Mais je pense qu'on a fait un gros match et ça s'est joué sur des détails.
Mmh. Bien. Je vous propose d'ouvrir une toute petite parenthèse. C'est l'épisode controversé de la rencontre d'hier soir. Ça s'est passé en première période. C'est au moment où Balthazar est lancé en direction du but d'Ibé. Et il y a cette faute de Blum sur Balthazar. Et moi, j'ai envie de savoir, messieurs, si vous pensez que cette attitude de Balthazar est trop honnête. Est-ce qu'il y a pénalty? Est-ce qu'il n'y a pas pénalty? Et est-ce que Balthazar était trop honnête?
Est-ce qu'on peut être trop honnête déjà?
Ouais. Pour moi, il y a quand même une petite, petite touchette de Blum. Et pas suffisamment à mon goût pour
cette faute, si elle est sifflée en dehors des 16, il se passe quoi? Est-ce que vous pensez qu'il siffle, monsieur San?
Mais en fait... t'as tout résumé au début, c'est que le fait d'être honnête, finalement, ne lui a pas servi, parce que je pense que la VAR revient clairement sur cette décision s'il est par terre. Après, le fait dehors-dedans, le début de la faute est dehors. Donc il y a aussi peut-être quelque chose là autour. J'ai eu un cas hier à Lucerne où le début de la faute était aussi dehors et finalement il a donné pénalty. C'est compliqué ce côté du règlement, je trouve. Reste que pour moi, s'il tombe, Balthazar... il y a faute.
Puis c'est double sanction. Il ne faut pas oublier ça aussi. Je pense que ça ne siffle pas parce qu'il sait que s'il siffle, c'est soit pénalty rouge ou soit coup franc et rouge derrière.
Si je ne dis pas de conneries, Blum, il avait déjà jaune en plus à ce moment.
Ah, ouais. Donc, comme Adjam déjà.
S'il tombait, je pense que la VAR donnait pénalty plus carton rouge.
Vous lui avez dit quelque chose dans les vestiaires? Vous en avez parlé? Mais oui, tombe.
Non, mais oui, on en a parlé. On lui a dit de tomber. Mais voilà, il a été honnête et ça n'a pas payé.
Après, on ne sait pas, effectivement. C'est toujours ce genre de scène où on ne sait pas la force qu'a mis Blum sur l'épaule, les ralentis, c'est toujours difficile à savoir.
Il est quand même assez vite déséquilibré. Moi, j'ai vraiment la sensation que soit il doit aller au bout, s'il décide de rester debout, il faut qu'il aille au bout, il tire, il est presque à bout portant, ou alors
il s'arrête pas de jouer, ça c'est clair.
Après, avec la VAR, on ne voit pas la force que Blum a mis, donc ils auraient sifflé, je pense.
C'est vrai. Je vous propose d'écouter les propos de Didier Tolo à notre micro hier soir à la fin du match. Il parle notamment d'une équipe qui a grandi.
Gagner, contribuer 3-0 à la mi-temps. Voilà, on a fait une très bonne première mi-temps, on s'est amélioré. Voilà. Donc c'est dans la lignée de ce qu'on fait ces derniers temps. Donc c'est bien, on a changé de système, on a évolué, on progresse. Oui, on a fait des steps. On recule beaucoup moins, on va chercher plus haut, on est capable d'être beaucoup plus efficace devant le but, on progresse sur les coups de pied arrêtés, c'est tout ça qu'il faut, mais il faut continuer parce que rien n'est jamais acquis. Mais c'est une progression, c'est bien. On veut finir très bien, on veut se placer très bien pour le deuxième tour, et si on arrive à faire un match conquérant à Yverdon, on aura fait un début de saison plus ou moins cohérent.
Retour à Yverdon, donc, pour Ali Kabak-Alman. Ça va vous faire bizarre de retourner au municipal ?
Ça va me faire bizarre. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de choses positives. J'ai passé 4 belles années. J'y suis pas retourné depuis. Enfin, j'ai été les voir une fois, mais sinon, en tant que joueur, non. Donc, c'est sûr que ça va me faire bizarre au début, peut-être à l'échauffement, mais après, dès que l'arbitre va siffler le coup d'envoi, ça va passer.
Pas de sentiment de revanche, demande Matt Karelski sur Instagram. J'imagine que non, mais on vous écoute volontiers.
Non, aucune. Comme je l'ai dit, j'ai passé 4 belles années. Aujourd'hui, je suis à Sion, je suis content. Et je vis de belles choses à Sion.
Sans parler de revanche, est-ce qu'il y a, on va dire, des regrets de ne pas avoir goûté à la Super League avec Yverdon ?
Bien sûr. Bah, de la déception, surtout. Ça, je pense que, enfin, je ne m'y attendais pas du tout. J'aurais préféré... jouer en Super League un peu plus tôt, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est mon destin. Et il y a eu une belle année avec Sion, on a fini champion et je goûte aujourd'hui à la Super League.
Ouais, et on est très heureux hein, de ça. On en parlera d'ailleurs même un petit peu plus longuement tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on parle un petit peu d'IB ?
Oui, on peut.
Parce que moi, je vous avoue que j'étais sous le choc hier soir. C'est vrai que IB était invaincu depuis 5 rencontres. IB grappillait gentiment des points sur le leader qui n'a jamais vraiment été le même ces dernières semaines. Servette, Bâle, il y a Zurich. Puis tout à coup, il y a un immense coup d'arrêt. Ben, Guillaume, forcément, je viens en premier vers toi. Ouais, c'est ton ancienne équipe. Est-ce que tu as déjà vu IB faire une telle catastrophe de première mi-temps ?
Honnêtement... Pas sûr, pas certain, mais c'est vrai que, comme tu dis, je te rejoins sur le fait qu'il y avait du mieux, surtout en championnat, mais il y a cette sérénité qui n'est pas retrouvée. Il y avait du mieux, en même temps, IB joue aussi contre l'Atalanta entre-temps, alors contre une grosse écurie, contre une grosse équipe, mais pour moi, là, c'était un tel écart qu'il y a quand même un peu le feu à la maison, j'ai l'impression. Même si les performances étaient là, à la maison, IB se doit de faire des points, se doit de gagner. Mais là, Sion, c'était criard aussi, cette différence. Puis ce sont toujours des erreurs qui se répètent. Et ce sont les mêmes
erreurs. C'est ça, les balles arrêtées, les contres, il y a de la nervosité. Moi, Michael, je voulais te demander un truc. C'est que nous, ici, on n'aime pas trop parler de faute professionnelle. On essaye de ne pas trop utiliser... cette phrase-là quand on débriefe des matchs. Mais là, franchement, on n'est pas loin de ça sur la première mi-temps d'hier. En tout cas, c'est moi qui le dis, tu n'as pas vu le match. Mais quand même, c'est choquant.
Je peux me faire l'avocat du diable.
Oui, bien sûr.
Parce que, alors oui, ce match, j'ai l'impression qu'IB est passé à côté. Mais je trouve que sur ce qui se passe depuis un mois et demi, en fait, IB est en train de rester à flot. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième tour qui arrive. IB est pas loin de... pas son objectif, parce que le titre est quand même loin. Mais finalement, tout le monde se bouffe des points. Le top 6, il est à quoi ? C'est même 6 points. Alors qu'ils ont fait un match catastrophique contre Sion. Donc pour moi, là, ils finissent l'automne avec encore le match la semaine prochaine. Ils vont rester à cette 8e, 9e place, à quelques points, quelques encablures du top 6. Et s'ils arrivent à fond au mois de janvier, février... je peux vous dire qu'ils feront très très peur et très très mal. Et je pense qu'en ce moment, c'est juste...
Non mais moi je suis pas d'accord du tout. On peut pas faire semblant et continuer.
C'est pas l'impression que ça donne.
Il y a un problème. Il y a un monstre problème.
Le problème est plus important pour moi aussi.
Il y a un problème dans le vestiaire, il y a un problème dans le langage corporel. Tu vois, hier, il y a trop de types. Tu vois dans les yeux, tu vois dans l'attitude, tu vois trop de choses comme ça. J'ai l'impression qu'ils veulent pas voir qu'il y a... Certains ne veulent pas voir qu'il y a un problème et certains le montrent trop.
Oui, et puis d'avoir vraiment la conscience de l'importance de chaque événement, c'est ça aussi. C'est un match, oui, belle performance, un bon résultat, et puis l'autre match, on fait des points où il y a une contre-performance, mais il y a toujours des erreurs qui pénalisent le groupe, qui pénalisent l'équipe, et puis qui pénalisent aussi le classement actuel. Donc à un moment donné, il faut être aussi conséquent, et pour moi, il y a un manque de conséquence de la part des joueurs, mais aussi d'une politique
et de sérénité sur le terrain. Moi, j'ai une image en tête hier soir, c'est le moment en première mi-temps où Chouaref est seul sur l'aile à droite, il y a 5 Bernois sur sa route, il y va. Et tu dis, ça va jamais passer. Mais ils les dribblent les uns après les autres, mais comme des cônes. Et je sais pas si, Ali, vous étiez sur le terrain. Est-ce que vous avez été surpris par ce non-match, par cette première mi-temps d'IB ? Ça vous a pas surpris de les voir autant à la cave ?
Clairement. On pensait pas à avoir autant le ballon, les dominer de cette manière. Après, Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Peut-être qu'ils laissent le coach en question jusqu'à Noël et ils changent après. Mais je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Après, est-ce que la Ligue des Champions, ça leur coûte aussi de la fatigue et des mauvaises prestations comme ça? On verra. Comme tu l'as dit, peut-être qu'en janvier, dès qu'ils n'auront plus la Ligue des Champions, ils referont des points. Ils ont eu aussi ce moment où il y a eu pas mal de blessés. Est-ce que ça a joué un rôle? Je ne sais pas du tout. Mais je pense qu'Ibé va bien revenir aussi.
Puis là, tout à l'heure, on parlait de rôle qu'on attribue aux joueurs. Pour moi, c'est ça qui fait aussi, je dirais, le mal d'Ibé en ce moment. C'est qu'on a trop de joueurs qui ne savent pas quel rôle ils doivent assumer. J'ai un peu cette impression-là. On a Laupère qui joue au milieu, qui joue dans l'axe derrière, mais en même temps, il a pas cette légitimité de prendre ce rôle de patron derrière. Benito qui pourrait prendre ce rôle comme il l'avait pris à l'époque dans cette défense centrale l'année passée en l'occurrence, mais le problème, c'est qu'il est trop blessé.
Montero, il a commencé sur le couloir, là, il joue plutôt en pointe.
Et puis au milieu, je dirais Ogrinić qui sort un peu du lot, mais sinon, j'ai pas un joueur, Levin Blum, qui pour moi devrait être le leader et puis le pion qu'on met à chaque match et puis en fait non, il y a des blessures comme tu disais, mais j'ai pas l'impression d'avoir un joueur qui a un rôle réellement attitré dans cette équipe.
Ça sert à rien de comparer hein, mais je te pose quand même la question. Maintenant ça fait quelques années que t'as quitté ce vestiaire là, mais jamais j'ai eu la sensation de voir un tel manque de sérénité dans les ronds d'IB quand je les vois jouer.
Oui, puis c'est plus, tu parlais de en janvier, on refait une équipe qui fait peur, mais là, ce n'est pas une équipe qui fait peur aux autres. Tu le disais, on en a parlé aussi, presque surpris de voir un IB apathique comme ça sur le terrain. Il y a un manque de sérénité, un manque de confiance, bien sûr, avec l'enchaînement de ce début de saison qui a été catastrophique. Je dirais, voilà, Joël Magnin a rétabli une certaine sérénité, un certain dialogue aussi avec les joueurs, ça fait du bien. Mais il y a quand même un mal qui est assez profond.
Je veux juste qu'on soit clair, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Il n'y a pas de sérénité, IB va pas bien. Ce que je voulais juste dire par là, c'est qu'en étant, on utilise quand même des mots forts, hein, des fois, c'est la catastrophe, c'est un IB, on n'a jamais vu autant peu de sérénité. Enfin voilà, en étant aussi mauvais, IB n'est finalement pas si loin. Et moi, je dis juste, attention, on n'est pas à l'abri de les retrouver dans le top 6 européen, voire même tout en haut, si tout d'un coup, il y a une série et qu'il se passe un truc avec un nouvel entraîneur ou je ne sais
oui,
quoi.
Oui, objectivement, sur le nombre de points, je te suis. Mais hier
après,
soir,
terrain, ouais,
tu
ouais.
vas à Tourbillon, tu peux, si tu prends 3 points puis qu'après tu reçois Servette avant Noël, tu as pris 6 points, suivant comment, tu es là. Tu es quatrième, tu es par là, tu n'as plus que 6 points de retard. Et là, pour moi, hier, c'est... Il faut tout recommencer. Puis j'ai l'impression que la trêve hivernale va être longue, même si en fait elle va être très courte. Ils reprennent le 28 décembre déjà hein, à Berne. Mais c'est long dans les têtes parce que tu tergiverses. Puis ta pause hivernale, là non plus, tu la passes pas sereinement. J'imagine que tu ne peux pas être serein pendant les fêtes.
Non, parce que le chantier est gros. Et puis il y aura des discussions, il y aura certainement des changements. Et puis une remise en question de tout le monde. Mais principalement des joueurs, des acteurs qui font au final le spectacle. Et puis les points sur le terrain.
Ouais, une petite question. Après, on écoutera Joël Magnin. Une question pour vous, messieurs. C'est assez évident, mais je vous écoute volontiers avec vos arguments. Est-ce que la Champions League n'est pas un cadeau empoisonné pour IB? Alors, il y a des sous, oui, mais...
Alors, cette année, on peut dire oui maintenant, vu où on est IB. Mais moi, je reste quand même d'avis qu'il y a un problème qui est plus général. C'est qu'on a les mêmes joueurs hein, sur le terrain, à peu de choses près. Il y a peut-être un, deux petites rocades. Mais des joueurs qui étaient des leaders la saison dernière et qui arrivaient même à faire des différences en Champions League par le passé. Je pense à des Elia, je pense à des Ugrinić. C'est quand même des gars qui sont...
Mais il n'y en a plus beaucoup, justement. Ouais, parce qu'avant, il y avait des Fasnacht, il y avait des Waro, il y avait des
Soleimani. Mais on parle quand même de joueurs qui ont marché sur le championnat à un certain moment. Elia, Eaton, Ugrinić, Blum, on disait que c'était le meilleur latéral de Suisse à un moment. Enfin, il y a tellement de joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Et je pense qu'au bout d'un moment, ce n'est pas juste à cause des joueurs. C'est qu'il y a eu un problème derrière. Il y a eu peut-être un mauvais choix, effectivement, dans le coaching. Il y a eu peut-être aussi dans le staff, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce moment... La sérénité qu'on ne voit pas sur le terrain, elle vient aussi d'ailleurs. Oui. Parce que les joueurs, pour moi, même s'il y a des joueurs qui sont partis, il y a peut-être moins de leaders, la qualité, elle est toujours là. Il n'y a rien à faire à la 9e ou
oui, place. Alors, ok, mais est-ce que tu as déjà vu Bon, allez, on reprend tes termes depuis ton début de carrière de journaliste. T'as déjà vu IB avoir 4 coachs dans une seule année civile?
Non.
Mais c'est fou! C'est fou, c'est quelque chose qui reste choquant pour moi.
Oui, non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et puis moi, de l'avoir aussi vécu de l'intérieur, c'est vrai que ça me fait mal. Et puis c'est presque frustrant. Puis ça me désole aussi pour l'équipe, parce que je vois qu'elle souffre, les joueurs aussi souffrent. Et puis des joueurs que j'ai côtoyés aussi à l'époque, qui étaient, comme tu disais, en pleine bourre, en pleine confiance, maintenant sont plus que l'ombre d'eux-mêmes.
Mais du coup, ça veut aussi dire, ce que tu dis là, que le problème vient d'en haut. Notamment, parce que quand on a 4 coachs sur une année, on peut aussi s'en prendre à soi-même, se dire au bout d'un moment, bah, on va peut-être faire un mauvais choix. Là, et je pense qu'IB, le problème ne vient pas que du terrain. C'est ça aussi que je veux relever.
C'est juste, je suis tout à fait d'accord avec toi. On écoute vite fait Joël Magnin, et puis ensuite on en discute.
Je crois qu'il ne faut pas être expert en football pour comprendre ce qui n'était pas présent chez nous aujourd'hui. On a perdu beaucoup de deuxième ballon, on a perdu les duels, on n'était pas présent mentalement dès le début du match, et c'est la raison pourquoi on a perdu ce match. Non, mais je crois qu'il faut la provoquer, cette chance-là. Ces derniers temps, on l'a toujours provoquée. On a eu le petit coup de pouce avec nous. Aujourd'hui, on n'en a pas assez fait dès le début, et c'est clair.
Ok, donc Joël Magnin nous parle d'une équipe qui n'a pas su provoquer la chance. Il est assez lucide, finalement. C'est quelques minutes après le coup de sifflet final hier soir.
Ouais, après le... On n'en a pas assez fait, c'est le genre de phrase qu'on entend à toutes les interviews d'après-match. Mais c'est vrai que je pense que sur ce... En tout cas, IB ne s'attendait pas à aller à Sion et à se faire agresser par le FC Sion. Et peut-être qu'il y a eu aussi un peu de facilité, vu que ça allait mieux ces derniers temps, en se disant, on va finir l'année comme ça, ça va bien aller. Et cette défaite, là où je vous rejoins, c'est qu'elle va peut-être faire mal maintenant à IB, parce qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à s'en prendre 3 à tourbillon.
Ouais, y a notamment Loris Benito qui a parlé hier soir à notre micro, qui disait c'est comme si on n'avait pas été prêt, on a été catastrophique, c'est la pire première mi-temps de notre saison. Un petit mot pour Flavio Di Carlo Antonio, qui ne peut pas nous regarder, malheureusement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il prépare ses examens de soins infirmiers. Donc, on te souhaite bonne chance pour tes examens. Flavio, c'est un de nos fidèles. Donc, on lui passe le bonjour. On va parler un petit moment avec vous. Ali, on ouvre votre page à vous. Les moments positifs de votre carrière, je vous ai demandé pour préparer cette émission. Puis, vous m'avez dit, les trophées, logiquement. Et c'est vrai que tout le monde ne nous dit pas forcément ça. On nous dit, c'était ma première sélection, c'était mes débuts en pro. Pour vous, c'est les trophées. Et vous m'avez dit... Avec Sion, vous m'avez dit avec Yverdon, et vous avez dit avec Lausanne aussi. Parce que c'est vrai que les gens oublient, vous avez fait 3 montées finalement en Super League.
Moi, j'ai pas eu de sélection, donc je peux pas dire ça. Mais sinon, oui, les trophées, c'est toujours des bons moments, mais surtout, c'est des belles saisons. C'est toute l'année, normalement, tu vis bien avec un bon groupe, et il n'y a que des choses positives. Et nous, les footballeurs, on joue aussi pour gagner des trophées. Et je pense que c'est extrêmement positif et encourageant, et on veut encore en gagner, en tout cas. Ouais.
3 promotions et enfin la Super League. T'en as parlé déjà brièvement. On s'est souvent dit entre nous, mais pourquoi aucun club ne lui donne sa chance? C'est certainement un joueur de Super League. On en a la preuve cette saison. On a envie de dire enfin.
Mais alors oui, mais ce qui est drôle, c'est que du coup, dans notre inconscient, on se demandait s'il avait le niveau de la Super League. Parce que vu que... il y a eu ses promotions et puis qu'il jouait jamais. On se disait, mais pourquoi Ali Kabak-Alman ne vient pas jouer en Super League? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que c'est tard, hein, 29 ans.
À 28 ans.
28. Oh, désolé. Je vous ai un peu vieilli. Mais voilà. Reste qu'effectivement, là, on voit cette saison que ça marche. Alors, pourquoi? Après, on va pas trouver des excuses au club, etc. Pourquoi ils ne l'ont pas pris avant? Mais. Moi, en tout cas, je m'étais posé cette question
oui,
début de saison, pour plusieurs joueurs de Sion d'ailleurs, mais pour Kabak-Alman notamment, en se disant, voilà, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que ça va marcher? On ne le savait pas. On avait beaucoup de doutes quand même, faut l'avouer.
Mais Lausanne, vous étiez peut-être un peu jeune, on peut comprendre. Oui. Mais Yverdon, par exemple, on n'a pas forcément compris, et c'est une question qu'on s'était posée, on est d'accord. On se disait, c'est quoi le problème si à chaque fois qu'il y a une promotion, on lui dit, super, merci, bonne chance pour la suite.
Non, puis c'est aussi... comment est-ce qu'on se relève de ces étapes-là. Alors, c'est sûr que la promotion, moi, j'en ai vécu avec Xamax, mais j'étais encore très jeune. C'est des moments extraordinaires. Mais c'est vrai que de pouvoir ensuite enchaîner le pas avec une saison complète de Super League, tu as enfin eu cette opportunité-là. Et puis, et comment que tu as le niveau, dans le sens où tu es un des joueurs les plus utilisés, donc ça fait réellement plaisir. Et puis je pense que d'avoir vécu aussi tout ça, d'avoir vécu aussi la Challenge League, la Premier League, quelques voyages du côté du Tessin, tu te rends compte, je pense, aussi de la chance que tu as au final, oui, d'être sur le terrain, puis d'entrer, et puis c'est cette attitude-là que tu montres à chaque fois.
C'est ça, c'est l'image pour moi, Ali, c'est l'image du travail et de la persévérance, en fait. Et c'est le passage aussi par les ligues inférieures, c'est le mec qui a dû aller s'arracher pour avoir sa chance. Et je trouve ça chouette pour les plus jeunes, pour les enfants qui voient qu'il n'y a pas tout le monde qui a la même trajectoire que Erling Haaland, par exemple.
Il n'y a pas une ligne directrice où tout va bien. Et puis ça, c'est ça qui est beau dans le football. Puis moi, c'est des exemples qui me ravissent aussi dans le foot.
Nanou demande comment s'est passée votre adaptation à la Super League.
Bien, très bien. Après, la chance que j'ai eue, c'est le club n'a pas changé énormément les joueurs. Donc, on se connaissait entre nous, ça facilitait aussi la chose. Et le premier match à IB, on le gagne. Donc indirectement, avec l'euphorie de la montée, la première victoire en Super League. Le deuxième match contre Lausanne, on gagne encore à la maison et je marque. Donc ça a bien débuté, donc ça peut que bien fonctionner après la suite.
Je me demande du coup, avec ce qu'on vient de dire, les doutes qu'on a pu du coup avoir aussi sur vous, les doutes que les clubs ont eu sur vous, est-ce que vous avez douté du fait que vous aviez le niveau de la Super League au moment où, cette fois-ci, vous avez pu vraiment commencer ?
J'ai pas douté, mais je comprends les gens. À 20 ans, 21 ans, quand on montait avec le Lausanne, j'avais pas énormément joué. Et j'ai pas eu cette chance de jouer aussitôt en Super League. Demain, si je prends l'exemple d'un Thun, si tout le monde, Bertonnet est milieu de terrain, on ne va pas se poser la question parce qu'à 20 ans, 21 ans, 22 ans, il jouait à IB en Super League, il avait déjà des matchs en Super League. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. J'ai dû aller gratter du temps de jeu en Challenge League à Kiasso, à Rapperswil. Après, je suis revenu en Promotion League à Yverdon. Et je pense que c'est pour ça que les gens se posaient ce genre de questions. Et après, à Yverdon, c'est un autre contexte. Il y a eu un nouveau propriétaire, il y a eu de nouvelles personnes. Et voilà, mais je comprends tout à fait les doutes. J'espère qu'il y en a plein, en tout cas.
Je crois que non. Rapperswil, vous l'avez mentionné, 2019, la relégation en Promotion League, ça c'est un moment dur de votre... Enfin, déjà, vous jouiez peu, et puis en plus, il y a la relégation au bout.
Bien sûr, ça a été dur parce qu'en fait, je quitte Kiasso où je joue tous les matchs pratiquement. Je quitte Kiasso qui est 10e pour aller à Rapperswil qui est mieux classé, et je finis relégué et sans jouer. Et on connaît le football. Tu joues pas, t'as pas d'appel, donc je me retrouve en Promotion League derrière. Ça n'a pas été facile, mais j'ai rejoint un groupe exceptionnel, des joueurs exceptionnels, et un club que je connaissais pas de l'intérieur, mais qui était incroyable.
Ouais. Et après, quand vous allez à Yverdon, vous allez justement vous retourner dans le foot amateur. Vous apprenez quoi sur vous-même dans cette expérience-là ?
Mais j'ai pas appris sur le moment à Yverdon, mais plus avant. Ma première expérience en dehors de la maison à Kiasso, les moments compliqués à Rapperswil, en plus avec la barrière de la langue. C'est plus dans ces moments-là où j'ai, je pense, grandi. J'ai peut-être pas eu grand-chose sportivement par rapport au foot, mais j'ai grandi humainement. Et c'est plus ça, ces choses-là qui m'ont fait grandir qu'autre chose.
Et vous dites quoi aujourd'hui quand vous regardez dans le rétro, toutes ces étapes, tous ces moments où vous avez dû cravacher, il y a quand même une certaine fierté, j'imagine.
Bien sûr, aujourd'hui, je savoure. Tous les matchs, tous les déplacements, tous les stades où on va, je savoure. Mais je ne me mets pas de limite. Si je peux encore viser un peu plus haut, j'irai avec plaisir. Mais on savoure et j'espère qu'on pourra inspirer des plus jeunes qui n'ont peut-être pas fait de centre de formation ou peut-être qui ont fait des centres de formation mais qui ont été rejetés à la porte de la première équipe. Et en passant par les ligues amateurs, on peut quand même jouer en Super League, en tout cas.
Il y a le mot doute qui est venu plusieurs fois dans cette discussion. Quand vous redescendez justement au niveau de la Promotion League, est-ce qu'il y a un moment où vous dites, bon, peut-être que ce sera mon niveau, je ne vais pas aller plus haut, c'est terminé, enfin, ma carrière pro... vous aviez quoi, 24 ans, par là autour.
Par là.
Voilà. Est-ce qu'il y a eu ce moment-là où vous vous êtes dit, bon, tant pis,
En fait, je ne me suis jamais posé la question parce que l'objectif du club, c'était d'aller en Challenge League et ils avaient mis les moyens, ils avaient recruté des joueurs de Challenge League. Donc, je ne m'étais pas posé la question. Mais après, cette première année, il y a eu le Covid où on n'a pas pu monter. Donc, c'est sûr que là, le discours change et tu te poses peut-être un peu plus de questions. Mais la chance qu'on a eue, c'est que le président n'a pas changé énormément de choses et on a pu monter la saison d'après et voilà.
On connaît la suite.
On connaît la suite.
C'est vrai que tu parles de savourer ces moments. Moi, je me replonge un peu aussi dans ma propre expérience où j'ai vécu voilà, aussi une première année loin de la maison à Vaduz où là, je ne jouais pas non plus. J'ai joué le début de saison ensuite. Peter Yele a repris sa place où j'ai fait quasi une saison complète. Après, je joue à Ville une saison, je joue à Thun et puis je subis une relégation à ma dernière année. Donc, gros coup dur. Au final, j'arrive dans quasi la meilleure équipe pour mes deux dernières années. Et puis, c'est du pur bonheur. On rentre sur le terrain, on savoure, on profite. Et puis, c'est aussi ça qui rayonne sur les autres. Et puis, je pense que tu en es l'exemple typique. Donc, ça me parle d'autant plus.
Allez, on vous met un petit peu sur le grill avec quelques questions de nos téléspectateurs sur Instagram. Vous étiez remplaçant à votre arrivée à Sion. Avez-vous eu de la peine à vous adapter au style du coach au départ, demande Jonas?
Non. Après, je suis arrivé la première semaine de championnat, donc j'ai pas fait de préparation. Je suis arrivé un peu en surpoids, donc c'était logique que je commence pas le début de championnat. En plus, l'équipe a performé. Bua et Balthazar, ils ont fait un gros match à Vaduz. Ils ont continué sur leur lancée. J'ai profité de la blessure de Balthazar à Neuchâtel et on a gagné 3-0. J'ai marqué depuis. Moi, je suis pratiquement plus sorti.
Et c'est très beau. Vous avez parlé de Kevin Bua. Il y a une question pour vous de sa part. Qui est le gamin de l'équipe et pourquoi c'est toi, Ali?
Le gamin, il a dit que c'est moi. Non, il le sait. Il sait. C'est un gros chambreur. Il met la bonne ambiance et il nous manque sur le terrain, en tout cas.
Ouais. De retour en 2025, normalement, Kevin Bua, à qui on souhaite évidemment un très bon rétablissement. C'est qui le vrai chouchou, demande un latéral droit du FC Sion, du prénom
Le vrai chouchou de qui? Il a pas.
C'est qui le vrai chouchou? J'ai que ça.
Bon, il y en a deux. Il y a le chouchou du coach.
Ouais. Ah. C'est qui?
Ilias Chouaref.
Ok.
Et il y a le chouchou. Il y a un autre chouchou, mais c'est Gora Diouf. Mais on peut pas dire de qui.
D'accord. Très bien. Le classement des trois plus nuls au ping-pong.
Ça c'est Ilias qui a demandé.
Non, c'est aussi Nouma.
Ah. Les trois plus nuls. Il y a Ilias, très nul. Très très nul.
Meilleur avec ses pieds.
Gora Diouf et Morsine Bouriga.
Gora Diouf qui a marqué son premier but en championnat hier. Peux-tu nous parler de ta relation particulière avec Christian Tanner, demande William Le Pogam. Alors, il faut déjà expliquer qui est Christian Tanner et puis répondre à la question.
Bah, Christian Tanner, c'est un intendant à Yverdon. C'est quelqu'un avec qui on chambrait beaucoup. Donc, une bonne relation, on rigolait beaucoup avec lui. C'était un peu la mascotte du vestiaire. Donc, très bonne relation avec lui et je lui souhaite bonne suite.
Est-ce que Christian Tanner, ça vous a marqué, évidemment, je crois, est-ce que Christian Tanner a transformé son pénalty avant le match à Chafouz, demande Nini Sautier.
Ah, j'ai une vidéo, elle est marrante. En fait, on arrive au stade et lui, il préparait l'échauffement avec les assiettes et il y avait un ballon sur le point de pénalty. Et en fait, on le filme pour voir s'il va marquer tir dehors.
Sans gardien, donc.
Sans gardien.
Ta première rencontre avec Timo Fayulu à la Porte d'Octodur, peux-tu nous la raconter?
Ouais. Les deux premières rencontres, les deux fois où j'ai été rencontrer le FC Sion, je l'ai croisé les deux fois à la Porte d'Octodur. Il était un peu énervé. Il avait quelques problèmes à régler administrativement et je lui avais dit, d'ailleurs je lui avais dit, mais moi la première approche que tu m'as donnée, c'était quelqu'un un peu d'énervé, de méchant et pas du tout en fait. C'est juste qu'il avait ses problèmes administratifs, du coup il m'a serré la main un peu froidement, mais non, il n'y a aucun problème.
C'est bien, c'était une question de Timo Fayulu. Ah, voilà. Je pense qu'il a voulu vous tester. Allez, on va passer à ton souvenir de la semaine, ton moment de la semaine, un truc qui t'a marqué, Michael, ce serait quoi?
On parle de foot en général.
On parle de foot en général.
Du coup, on sort de la Super League.
Absolument.
On va parler gardien. Parce qu'il y a un gardien qui a pris son premier carton rouge dans l'ensemble de sa carrière à 38 ans. C'était en début de semaine contre le Leverkusen en coupe. Manuel Neuer, carton rouge pour ça. Plus de 900 matchs. Premier carton rouge, direct ou pas direct hein, d'ailleurs. Et je trouve ça assez exceptionnel. Je connaissais même pas cette statistique avant qu'il prenne ce rouge. Alors, le but, c'est pas de parler du rouge, c'est de se dire, bah voilà, quand même, il y a des gars
matchs
comme ça qui ont, en plus d'être exceptionnels, bah, qui ont ce caractère quand même positif sur un terrain, qui n'ont jamais vu rouge, que ce soit pour une faute, pour du caractère, pour des mots envers l'arbitre. Et ça, je trouve quand même assez exceptionnel.
Ouais, et il s'est excusé sur les réseaux sociaux. Ouais. Et Toni Kroos lui a répondu en disant, mais eh oh, de quoi tu t'excuses avec le petit goat derrière? Et
c'est
ça,
d'autant plus étonnant en connaissant Manuel Neuer dans ses prises de risque, des fois aussi avec le crochet derrière la jambe, quand l'attaquant le presse, ou alors vraiment que c'est sorti hors de ses 16 mètres. Ça relève encore une fois sa lecture du jeu et puis sa grande classe, quoi. Donc, en plus, il s'excuse. Donc, c'est un gentleman sur le terrain. Il a toujours ce calme olympien. Jamais un mot sur l'arbitre. Toujours calme avec ses collègues.
C'est vrai que c'est assez fou de se dire, parce que c'est un libéro des fois, et se dire vraiment, le gars, il a jamais fait de faute qui a obligé l'arbitre de lui mettre rouge, alors qu'il est toujours à 40 mètres de son but. Quoi.
Ouais, ça, ouais. Et puis quand même, hein, 866 matchs sans prendre de rouge.
Ah, j'avais compté plus large, parce qu'il y a aussi, même en junior, etc.
Oui,
il
c'est vrai, oui, rouge. Oui, ça marche. Moi, j'ai compté les matchs officiels. ouais, exact. Fin de contrat, à la fin de la saison. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de discussion. Le Bayern sans Manuel Neuer, vous arriveriez à vous l'imaginer, à vous y faire? C'est un peu comme le Real sans Sergio Ramos, c'est un peu comme, je sais pas moi, Liverpool sans Jürgen Klopp, quoi.
Bah, je pense qu'il se prépare. Il se prépare à ça, il y a une fin à tout. Après, c'est sûr qu'il a passé de longues années. C'est une légende. Je pense qu'il se prépare aussi à ça, le club et le gardien aussi.
Mm-hmm. Bon, maintenant il a pris rouge, le club va lui en vouloir, je pense que c'est fini.
Fini. Bon, puisqu'on parle du chapitre des gardiens, Ali, il y a un de vos anciens coéquipiers qui vous a envoyé cette vidéo. On l'écoute et on en parle après.
Salut Ali, c'est Genzian Bouniakou. Une petite question pour toi. Quels sont tes projets pour ton après-carrière? Une carrière de gardien de but amateur? Allez, à bientôt mon gars.
Non, alors, pas du tout. non. Non, mais pour rigoler, j'ai toujours dit que j'aimerais bien faire un match au goal. Je ne sais pas pourquoi. Mmh. Mais j'aimerais bien faire un match... J'ai déjà fait un petit bout de match.
C'est vrai ?
Avec Yverdon.
C'est vrai ?
Mais une minute.
Une minute.
Contre Vaduz, il y a eu penalty. Ils ont loupé. Ils ont tiré dehors. J'étais au goal. Mais j'aimerais bien faire un match, ouais.
Bah, on a les images, Ali. Ah. On a retrouvé les images de 7 minutes. C'est votre moment de gloire, Guillaume. Quel charisme, regarde ça. Quel charisme, il a dérangé Luchinger. Et puis ça fait 2-2 à la fin. Hein. Sinon, ça fait 3-2 pour Vaduz.
Il a joué avec les nerfs de l'attaquant. Là.
En plus, je glisse. Hein.
Ouais, puis on voit le petit contre-mouvement avant là, pour déstabiliser l'attaquant. Non, pas mal.
Bon, plus sérieusement, il y a quand même une question sérieuse hein, là, de Genzian Bouniakou avec qui bah, vous avez notamment joué. Mais qu'est-ce que vous voyez faire plus tard après votre carrière, pardon.
Je ne sais pas encore. Honnêtement, je ne me pose pas forcément la question. Aujourd'hui, je préfère savourer, surtout que c'est la première saison en Super League. Je préfère savourer mes moments de joueur encore aujourd'hui et on verra.
Ouais. Et puis, on n'a pas choisi une question de la part de Genzian Bouniakou au hasard. Hein. Messieurs, vous savez qu'Ali, il jouait au foot avec Kevin Martin. Il jouait au foot comme Genzian Bouniakou et les mecs, ils étaient assis sur le banc de Dardania. C'était des coachs de Dardania, ils ont été promus en fin de saison. Ça, c'est un truc complètement dingue. Racontez-nous un petit peu, c'est fou comme idée, ça part de quoi?
Mais en fait, c'est Genzian Bouniakou qui reprend l'équipe et je l'appelle au téléphone pour rigoler. Je lui dis, tu cherches un assistant et il me dit, vas-y, viens. Et j'y vais, il y avait Kevin Martin pour coacher les gardiens. Et au début, on l'a pris à la rigolade. Et plus les matchs passaient, plus on voyait la qualité des joueurs, plus on voyait aussi le titre, enfin les premières places devant nous. Et finalement, on a fini champion, promu. Et en même temps, bah, nous, avec Kevin, on a fini champion de Challenge League à Super League avec Yverdon. Donc ouais, une belle histoire.
Ah bah voilà, donc ça veut dire quand même que dans 10 ans, tout d'un coup, il peut y avoir un futur d'entraîneur.
Projet d'après.
Non, on verra, honnêtement, on verra.
Avec Genzian Bouniakou et Kevin Martin, ce serait énorme de les revoir les trois sur un banc de Challenge League ou de Super League.
Je peux juste rebondir à ce qui a été dit avant, parce que souvent, je ne sais pas si Guillaume va me suivre là-dessus, mais au lieu que ce soit un joueur de champ qui aille au but, les gardiens, ils aiment bien Je ne sais pas si Guillaume, tu seras d'accord avec moi. En tout cas, en amateur, c'est souvent le cas. Veulent aller jouer en attaque une fois. Est-ce que ça a été ton cas? Alors, peut-être qu'en pro, c'est compliqué de le faire, mais à l'entraînement, on a envie d'aller planter un de Gaulle, non?
Oui, ouais, moi, j'étais un de ces gardiens qui voulaient participer.
Gardien volant marquant, on appelle
puis,
ça.
Oui, exactement. Et puis, un peu frustré par moments de ne pas avoir assez d'emprise dans le jeu ou d'influence. Et puis, on a parlé de Manuel Neuer, qui lui a commencé comme joueur de chambre, très vite mis comme gardien, mais lui, il ne voulait pas être gardien, il voulait être joueur. Et puis, c'est vrai que gardien, il y a un peu ce côté frustrant des fois de je me souviens d'une phrase de Claude Rive qui me disait le gardien, vous les gardiens, vous êtes tributaires du jeu. Vous répondez aux questions, c'est pas vous qui posez les questions. Donc c'était assez parlant.
Ouais, le professeur. Oui. Toi aussi, tu es venu avec une thématique. Tu avais envie de parler de quelque chose de très particulier.
Oui, parce qu'on parle souvent des attaquants qui marquent les buts, on parle des gardiens qui sont décisifs, mais moi, ce qui m'importe aussi, c'est de voir l'attitude des défenseurs. Et voilà, moi, je prends l'exemple de Steve Rouillet à Servette, qui est exemplaire. C'est pas seulement un défenseur qui anticipe bien, qui a une lecture du jeu, c'est quelqu'un qui amène une stabilité, qui amène un état d'esprit, je dirais, sur le terrain, et puis qui amène vraiment aussi des prises d'initiative, des actions qui... Je pense encore au match contre Lugano où là il marque deux buts, mais en première mi-temps il est à l'initiative d'une occasion où il récupère le ballon haut, il décale sur la droite, il continue sa course dans les 16 mètres pour faire le surnombre, et puis il amène à chaque fois quelque chose. J'adore cette attitude, j'adore ce joueur, et puis c'est défenseurs qui sont modernes pour moi, à vocation offensive. On a Noé Dussen à Lausanne qui tire les pénaltys. On sait que dans les bases arrêtées offensives, il est toujours au bon endroit, au bon moment. Et puis, on prend l'exemple de Joël Schmidt aussi, qui a vraiment cette qualité-là aussi de présence, d'impact physique offensif également. Donc, ouais. J'adore ces profils-là.
On déstructure un petit peu, on commence peut-être par Rouillet, mm-hmm. peut-être. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est la sérénité qui dégage, c'est le côté rassurant. Moi, j'ai l'impression que tu mets Steve Rouillet sur le terrain, il te demande d'aller avec lui à droite, tu vas avec lui à droite, il te demande d'aller avec lui à gauche, tu vas avec lui à gauche, tu le suis tout simplement aveuglément, tellement tu as l'impression que le mec... il va jamais te décevoir.
Complètement d'accord avec ça. Et j'ai l'impression que c'est... comment il s'appelle celui qui... Il va, l'âge dans le mauvais sens, Benjamin Button.
Benjamin Button.
J'ai l'impression qu'avec le temps, il va vraiment mieux. Et là, honnêtement, on pourrait dire ouais, il a 27-28 ans, que ça ne me choquerait pas. Parce qu'il est... même physiquement, il a l'air comme... Enfin, je me rappelle de lui, à ses débuts en Super League, c'était à Lugano. Je m'étais dit, c'est pas mal, c'est un bon joueur. Mais je ne m'étais pas dit, il est impressionnant. Là, tu regardes, alors peut-être pas sur tous les matchs évidemment, mais tu regardes les trois quarts du temps Servette, tu te dis, oh, Rouillet, c'est impressionnant. Et le gars, il a quand même 34 ans. On aurait tendance des fois à l'oublier, il a 34 ans.
Puis il joue tous les matchs, il est tout le temps aligné. Et puis, ce qu'il ne faut pas minimiser non plus, c'est qu'il y a eu cette politique sur le long terme de Servette, mais il y a eu quand même... quelques changements d'entraîneur aussi entre l'arrivée de Weiler, l'arrivée d'Eberly aussi entre-temps. Il y a eu cette rocade de gardiens. Et puis, on dit Servette, cette capacité de résilience, de gérer ces étapes-là aussi. Mais ça, c'est pour moi aussi la grande part pour Steve Rouillet, avec Johan Severin à côté qui fait aussi l'excellent
jeu. Il avait été engagé comme joueur de Challenge League, en fait. Enfin, dans le sens où, quand il est arrivé, c'est la dernière saison de Servette en Challenge. Quand
il arrive de Lugano, ouais.
Il arrive de Lugano, mais comme un joueur, justement, qui n'était pas forcément établi en Super League. Il avait fait une bonne saison la dernière avec Lugano, mais il arrive comme bon joueur de Challenge League. Et là, maintenant, il est bon, voire très bon joueur de Super League. Et c'est ça, on parlait de progression avant. Lui, la progression, elle est encore différente, je trouve, oui. Parce qu'il devient vraiment meilleur à 34 ans. Mais vraiment, les échelons ont été pris vraiment dans le bon sens.
Et c'est un joueur important aussi dans le vestiaire. C'est un joueur qui... Voilà, que les joueurs écoutent, que les coéquipiers écoutent. C'est important d'avoir ce genre de profil-là.
Bien sûr, c'est un leader. C'est un leader sur le terrain et je pense en dehors aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui à Monté en Première Ligue. Et lui aussi, il a eu un parcours un peu différent des autres. C'est un ancien attaquant aussi. Donc, c'est pour ça qu'il est assez adroit devant le goal. Mais je pense qu'il aurait peut-être mérité un moment d'avoir peut-être une convocation en équipe suisse. Je sais qu'il est de piquer.
Ouais, ouais.
Mais oui, et je pense que lui aussi, il savoure, il prend du plaisir, vu qu'il ne l'a pas eu peut-être à ses 20 ans, et il le prend peut-être aujourd'hui, et c'est ça qui est beau.
Mais je rebondis, hein, je n'avais pas préparé la question, mais est-ce que ce serait complètement fou de le voir au mois de mars convoqué ?
Fou, peut-être pas, mais en fait, je pense que quand un sélectionneur national a le choix entre un joueur de 21-22 ans pour préparer l'avenir et se dire bah, peut-être c'est mon futur défenseur central titulaire dans 4 ans, ou un joueur qui a 34 ans, même si c'est peut-être le meilleur défenseur de la Ligue, je pense qu'il prendra plutôt celui de 21-22 ans, même si dans ce genre de moment, on peut se dire bah, le gars de 34 ans dans le vestiaire, lui, il va accepter d'être remplaçant, il va accepter d'être là derrière comme leader peut-être même du vestiaire. Ça pourrait devenir un leader de l'équipe de Suisse dans le vestiaire s'il est sélectionné. Mais je pense quand même qu'un sélectionneur, il va privilégier le jeune que le vieux.
On passe à Noé Ducène, victoire du LS 3-0 hein, aujourd'hui à la Tuilière contre le FC Zurich. Incroyable, hein, Lausanne qui continue sur sa lancée, et ce défenseur qui te plaît particulièrement, pas seulement parce qu'il marque des buts, comme tu l'as dit, il marque sur les coups de pied arrêtés, il tire les pénaltys, mais il y a aussi ce geste défensif qui t'avait énormément plu contre Sion sur Elias Suarez.
Puis c'est, pour moi, ça c'est à l'image d'une saison, et puis ça peut être des moments clairement décisifs dans une saison. Il y a 0-0 à ce moment-là, Suarez marque le but, c'est 1-0 pour Sion, et puis là on rebrise peut-être une dynamique aussi positive à ce moment-là. On voit vraiment maintenant que tout marche, et puis c'est ce genre de gestes qui sont pour moi des moments vraiment hyper importants dans le cours d'une saison, comme je vois aussi des moments de joie qu'on partage en équipe après une victoire. Je pense à Bâle, les victoires acquises dans les dernières minutes, où là on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça c'est une action où il y a quelque chose qui s'est passé.
Ouais, puis c'est un rageur, mais dans le bon sens du terme. Il me fait penser à Papadopoulos à Lugano. C'est des gars, ils célèbrent leur tacle, ils lèvent le poing, ils vont haranguer le public quand ils taclent. On voit pas ça tous les jours quand même. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que j'aime bien.
Et tu sais quoi ? Moi, j'ai l'impression qu'on voyait pas ça non plus tous les jours chez Noé Ducène la saison dernière. Ouais. Je trouve qu'il
a peut-être pris aussi en...
Ouais, il est devenu comme ça. Non, il était déjà rageur. Mais j'ai rarement vu Noé Ducène célébrer à ce point-là une intervention. Puis il s'est arraché sur cette action-là. Et c'est aussi ce qui change le visage du LS. C'est aussi pour ça que Lausanne a pris quoi ? Deux buts sur ses 9 derniers matchs. Voilà.
Incroyable.
C'est le visage de cette solidité défensive.
Puis on le revoit aujourd'hui encore sur la parade de Letizia en fin de match, ou une erreur de Mouanga. Chaque joueur est là pour corriger l'erreur de l'autre. Et ça, c'est vraiment les signaux qui sont ultra positifs. Des fois, il suffit de peu pour que ça bascule d'un côté comme de l'autre. Là, du côté du LS, ouais, ça a basculé du bon côté.
Blanchissage pour le LS, c'est le highlight de Chris Lausanne avec ce nickname. Et ben, forcément, on se doute que c'est ton highlight. On a encore juste le temps de parler de Schmidt, puisqu'il joue dans votre équipe. Alors, vous n'avez pas blanchi hier. C'était presque le match parfait. Puis il y a cette toute dernière occasion. Mais c'est vrai que Joël Schmidt, c'est aussi l'un des tout meilleurs défenseurs centraux de Super League.
Bien sûr, c'est un patron, et je pense qu'il, avec la saison passée, il a pris une autre dimension. Il a pris une autre dimension au club, il a pris une autre dimension, je pense, par rapport au regard que les gens ont peut-être de lui. Et je pense que sa progression va encore augmenter, parce qu'il n'a que 25 ans. Et j'espère qu'il aura de belles avenirs, en tout cas devant lui. Mais c'est un très bon joueur, et dans le vestiaire il est top, c'est un leader, il parle sur le terrain, il parle en dehors du terrain, et c'est important. Et en plus de ça, bah, il marque des goals, il est efficace sur coup de pied arrêté, donc c'est toujours un plus, je pense, pour un défenseur de marquer des goals, d'être décisif aussi de l'autre côté du terrain.
C'est tellement constant dans ses performances, ça stabilise tout un groupe, toute une défense, un gardien aussi, d'avoir des défenseurs comme ça qui alignent. Les performances pour un gardien, c'est aussi extrêmement, extrêmement rassurant.
Je sais qu'on est quasiment au bout de l'émission.
Non, vas-y.
Je veux juste citer un joueur en plus, parce que peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en débattre, mais pour moi, Luca Rakes, Lucerne, c'est peut-être le futur grand défenseur de notre championnat, ça peut devenir un international selon moi. Là, avant, là, on a parlé beaucoup de joueurs d'expérience en défense centrale. Lui, c'est clairement un jeune qui va devenir très très bon. Alors hier, il en a pris 4. Mais honnêtement, c'est très fort.
Mais je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. C'est aussi ouais, un profil.
Caracas, pareil, avec une grosse marge de progression, ouais. je trouve. Et bah, ça fait, on a l'impression qu'il est là depuis déjà une petite éternité parce qu'ils sont allés, bah, voilà, Lucerne, qui a ce centre de forme, enfin, ces joueurs formés au club, qui les met très vite sur le terrain, très vite en Super League. Et effectivement, c'est un joueur qui, très vite, a pu engranger de l'expérience.
Et c'était un timide un peu au début, oui. Il est arrivé sur la pointe des pieds. Et là, en fait, même sur le match d'hier, qu'il perd 4-1, c'est un leader. Alors qu'il est très jeune, alors qu'en même temps, à côté de lui, c'était encore un plus jeune. Le gars à côté, Freiman, il a 17 ans. Donc, il faut quand même un leader. Mais il prend cette responsabilité-là. Et ça, je trouve que ça prouve quelque chose.
Il n'a pas, pas eu une petite embrouille il n'y a pas très longtemps, justement, où il s'est... Avec un autre joueur, justement, je me suis dit, tiens... Il a quand même du caractère malgré son jeune âge. Je même plus. Est-ce que c'était avec les M21 de la Suisse? Je ne sais plus. Enfin, j'ai une image de lui en tête, en tout cas. Où
il montre de la personnalité
oui,
aussi.
Oui, c'est ça. Fait. Et tu peux avoir de la personnalité quand tu as l'âge de Steve Rouillet, de Noé Dussen, peut-être, bah oui, Joël Schmidt, c'est un peu entre deux. Mais Rakes, à cet âge-là, déjà, y aller comme
ça. C'est marrant parce que tous ceux qu'on a cités, c'est des gars qui vont marquer aussi.
Oui.
On a parlé de Dussen, Schmidt et Rouillet. Bah, Rakes, il commence à marquer des buts aussi parce que bah, ça va très très bien derrière et peut-être qu'il prend confiance, il va sur les corners, il y va peut-être encore plus à fond et l'un avec l'autre, ça fait qu'on a un des meilleurs défenseurs du championnat peut-être déjà maintenant.
On a juste le temps encore de faire un dernier petit tour de table. Pascal Duvoisin nous dit clairement le LS, c'est la meilleure équipe de Super League actuellement. Moi, j'ai de la peine à lui donner tort. Je vois quand même une équipe qui marque beaucoup, qui prend peu de buts, qui enchaîne les points, qui est en train quand même de... Pour moi, c'est la révélation de cette première partie de saison. Vous ?
Alors, je suis plus d'accord avec toi qu'avec lui, du coup. La révélation de cette première partie de saison, la meilleure équipe, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai quand même Lugano que je porte très haut. Il y a eu un match raté
contre Servette,
mais sinon, honnêtement, ces derniers temps, c'est très très fort Lugano.
Ali, pour vous, à part Sion, c'est qui la meilleure équipe?
Non, moi, je suis d'accord, parce que en plus Lugano joue sur les deux tableaux et performe sur les deux tableaux, hormis le match contre Servette. Mais
trois tableaux.
Ouais.
Avec la coupe. Et ils performent, bah, du coup, sur les trois tableaux. Et en plus de ça, ils produisent un beau jeu. Ils sont bons dans ce qu'ils font. Mais c'est vrai que le Lausanne, depuis deux mois, peut-être deux, trois mois, ils performent. Et ils ont des joueurs importants qui performent aussi, notamment Alvin Sanchez, Diabaté, Berned. Il y a Aydini aussi qui marque assez souvent ces temps. Donc oui, c'est une belle révélation de Lausanne, comme tu l'as dit. Et heureusement pour nous que ça s'arrête maintenant.
Et Lugano-Lausanne, hein, le week-end prochain, pour nous départager. Voilà. Si jamais...
Non, mais ça risque d'être un joli match.
Guillaume, rapidement.
Non, moi je suis comme toi. Je vois clairement Lugano comme la meilleure équipe en ce moment. Et puis Lausanne, peut-être pas encore au point d'assumer réellement ce statut de très bonne équipe jouant les premiers rôles.
Ali, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de cette année et la suite de cette saison?
Une victoire contre Yverdon déjà, qui sera dure et très importante. Et après, de continuer à performer comme ça collectivement avec l'équipe et de se maintenir, essayer de se maintenir le plus rapidement possible.
Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Merci au FC Sion, évidemment, de nous avoir prêté Ali Kabak-Alman, qui n'est pas venu les mains vides. Regardez, il est arrivé avec le maillot du FC Sion. Dédicacé à partir de demain, on le met au concours sur notre page Instagram. Dès demain matin, foncez sur vos téléphones. Merci Guillaume, merci Mickaël, merci encore Ali. Merci à vous, très belle semaine et à plus. Ciao.